clore cette journée. Je suis désolée pour la pause, hein. Je vais essayer de faire relativement bref. Je vous annonce tout de suite le nombre de diapositives. Il n'excédera pas 14. Donc ça devrait être effectivement assez rapide. Donc pour resituer un petit peu l'établissement, donc je travaille dans une université de sciences humaines qui est donc le service commun de la documentation de Lyon 2. Et je suis donc à la fois membre du service formation et responsable donc du service de renseignement en ligne. Donc pour vous faire un petit peu l'exposé et le plan de l'intervention, donc je vais parler dans un premier temps du service formation et des actions qu'on met dans ce sens. Dans un deuxième temps, donc resituer un petit peu le contexte de la genèse du service de renseignement à distance et après essayer donc de faire le lien entre les deux. Donc pour faire un petit rappel sur la formation des usagers à Lyon 2, donc en fait, il existe de la formation donc sous forme relativement structurée depuis environ l'année 2001, donc avec des formations pour les premières années de licence, qui sont en fait des formations qui sont inscrites dans les cursus, qui se déroulent en amphi. Donc on intervient sous la forme d'une séance en amphi qui dure environ 1h30, donc qui est systématique pour tous les étudiants de première année. On propose aussi donc des formations à destination des masters, qui sont plus des formations à la demande des enseignants, des formations qui sont un peu à la carte. Et depuis donc environ depuis l'année 2010, on a vraiment mis en place un module de formation pour les doctorants, donc en partenariat avec d'autres établissements lyonnais, et on a beaucoup travaillé notamment avec les collègues de la bibliothèque interuniversitaire. Et on a mis en place ce module de formation pour les doctorants qui concerne donc pour Lyon 2, on intervient dans 5 écoles doctorales. Donc vous voyez à travers cet exposé qu'en fait, on cible un petit peu tous les niveaux de formation. Donc, on ne se cantonne pas uniquement aux licences, ni au master, ni au doctorat. C'est vraiment un panel assez varié. En ce qui concerne donc les disciplines auxquelles on s'adresse, hein, c'est vraiment toutes les disciplines qui sont enseignées à Lyon 2. Alors, vous verrez après, hein, qu'il y a une relation, bien évidemment, une espèce de continuité entre les collections, les formations et le nombre de questions, hein. Ce qui paraît relativement logique, mais qui ne l'est pas dans toutes les disciplines. Et après, donc, il faut savoir que la plupart des formations, donc, hormis les formations en L1 et les doctorats, la plupart des autres formations donc, sont dispensées hors cursus. Donc il n'y a pas de validation par des crédits pour les autres formations. Donc après, dans ce contexte de la formation, hein, qui est relativement bien installée et relativement institutionnalisée, on va dire, depuis 2001, est né donc le service de questions-réponses de Lyon 2, donc, qui porte le nom de BEL, bibliothécaire en ligne, qui a été créé donc début 2008, suite en fait à une nouvelle organisation de la bibliothèque et à l'offre de nouveaux services. Donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'est né ce service de questions-réponses. Et au départ, donc, on avait donc réfléchi à l'organisation de ce service et à sa mise en place, mais on n'avait pas vraiment ni de moyens humains ni financiers pour le mettre en œuvre. Donc on est parti au départ sur la base de volontaires qui en fait appartenaient pour la plupart d'entre eux, voire tous, au service formation. Donc c'est vrai que c'est déjà à ce niveau-là qu'on voit le lien, hein, qui existe entre les deux services, déjà au niveau de la constitution de l'équipe. C'est au départ les mêmes personnes qui font partie du service formation et celles qui participent au service de bibliothécaire en ligne. Alors après, la constitution des membres de l'équipe a évolué. On est passé de 5 personnes à environ une dizaine de personnes pour l'équipe formation et à une douzaine pour bibliothécaire en ligne. Et en fait, dans les deux cas, le service formation comme bibliothécaire en ligne, hein, s'est étoffé et a recruté parmi les acquéreurs des différentes disciplines. Donc, pour ce qui est du service de questions-réponses en ligne, donc la nature des questions, hein, au départ, on était parti sur une idée de questions d'ordre bibliographique, puisque c'était un petit peu la vocation de ce service. Et en fait, on répond à tout type de questions, hein, on est parti du principe que toute question était légitime et que si on ne donnait pas la réponse, soit sous forme factuelle, soit sous forme pédagogique, hein, on partait sur le principe d'une réorientation des gens qui nous posaient des questions. Donc en général, hein, et même en particulier, on ne laisse pas les gens sans réponse. Soit on leur donne une réponse si on l'a, ou alors on les réoriente vers d'autres services de l'université si besoin est. On peut aussi, donc ça nous est arrivé parfois, hein, de réorienter vers d'autres services de questions-réponses. Quand la nature de la question était plus générale, ça peut être par exemple le guichet du savoir ou le service de questions-réponses de l'ENSIB, le service de réponses en ligne de Lyon 1, etc. Donc on était parti sur une idée, voilà, on était tous formateurs, hein, donc on s'était dit, dans un premier temps, on donne la réponse à la question, mais l'idée c'était quand même derrière d'avoir une espèce de vocation pédagogique du service, et non seulement de donner la réponse, mais de donner aussi le moyen pour l'obtenir. Donc voilà, on expliquait aux gens, voilà, vous nous posez la question de savoir si tel ouvrage est à la bibliothèque de Lyon 2. Nous, on vous dit que oui, il y est, vous pouvez le trouver à tel endroit sous telle cote, mais si vous voulez par la suite refaire une recherche similaire pour un autre titre, à ce moment-là, on vous indique où trouver le catalogue qui vous permettra de réitérer la recherche si jamais vous avez le même problème par la suite. Donc le service de questions-réponses, hein, l'idée c'est qu'à travers ce type de service, hein, on délivre toujours une réponse qui va être personnalisée, qui va être adaptée donc, au statut de l'étudiant. Alors il faut savoir que le service de questions-réponses tel qu'on l'avait imaginé au départ s'adressait à tout public, donc communauté Lyon 2 et hors Lyon 2. Mais après, il faut s'adapter aussi, si l'étudiant est hors Lyon 2, donc on a évoqué tout à l'heure les histoires d'accès distinct pour les bases de données. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas étudiant à Lyon 2, vous cherchez une bibliographie sur la boulimie, l'anorexie, vous ne pouvez pas orienter les gens vers une base de données qui va être sur laquelle vous aurez besoin de codes d'accès pour vous authentifier. Hein. Donc il faut essayer de retrouver d'autres moyens de contourner les choses pour arriver à donner une réponse qui soit à peu près satisfaisante. Donc il faut tenir compte de ce genre de choses. Il faut tenir compte aussi du niveau de l'étudiant, puisqu'on ne va pas donner le même type de réponse selon que l'étudiant sera en première année de licence ou en doctorat. Donc pour vous donner un petit peu quelques chiffres, donc voilà un petit peu l'évolution du service depuis son ouverture. Donc ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, c'est les chiffres qui vont être inhérents à ce service. Donc il faut savoir qu'en moyenne, on va traiter entre 40 et 60 questions par mois, ce qui n'est pas énorme du tout par rapport au nombre de formations qu'on dispense. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle ni sur la même volumétrie. Mais voilà, on est, on va dire, dans un nombre de questions à peu près raisonnable. Donc on peut tout à fait traiter donc, ce qui justifie le fait d'avoir vraiment ouvert le service à tout le monde, donc les Lyon 2 et les hors Lyon 2. Et on voit donc que cette activité, donc, elle est depuis l'ouverture, on va dire, à peu près stable, avec une hyperactivité, on va dire, pour l'année 2009, qui s'explique en fait par une grève des enseignants-chercheurs, qui a en fait conduit à la désertification des campus, et on a eu quand même pas mal de questions suite à cet arrêt des cours sur des choses assez pratiques. Est-ce qu'on, pendant l'arrêt des cours, la bibliothèque est tout de même ouverte? Est-ce qu'on peut se procurer tel et tel type de livres, tel et tel type de choses sur une thématique assez précise? Donc voilà pour le public du service, hein, voilà un peu comment ça se répartit. Donc c'est essentiellement les étudiants de niveau M qui utilisent le service, mais après on se rend compte que si on cumule finalement les L1, les L2 et les L3, on arrive à peu près au même pourcentage que les étudiants de master. Donc après il faut peut-être aussi, quand on examine ces chiffres, réfléchir à la façon dont on passe l'information. Peut-être que les étudiants de L1, ils ont moins de besoins en matière de bibliographie, mais au moment des amphis de rentrée, ben finalement, la masse qu'on touche des étudiants de L1 et auxquels on présente vraiment très rapidement le service, on leur dit juste qu'il existe, on leur montre l'accès, mais quand même, ça les sensibilise au fait qu'il existe un service de cette nature, et c'est pour ça que finalement, on se retrouve peut-être avec pas mal de questions d'étudiants qui sont quand même assez néophytes en matière de recherche documentaire. Donc après, vous voyez que les doctorants, ils ne représentent pas non plus un nombre important d'utilisateurs, hein, même si on est très présent au niveau des formations. Et après, vous voyez que pour les autres catégories, les chiffres se répartissent de façon assez équitable. Alors après, si on veut essayer de voir un petit peu le lien entre les différents services, hein, le service formation et le service de réponse à distance, donc on peut déjà pointer un certain nombre de différences avant de voir les similitudes qui peuvent exister. Donc déjà, en matière de type de questions abordées, donc c'est vrai qu'au niveau du service de questions-réponses à distance, hein, on a beaucoup plus de questions d'ordre pratique et technique qu'on peut en avoir quand on est en face des étudiants et quand on est en présentiel lors d'une formation. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà une des premières différences notables qu'on peut pointer. Après, il faut savoir aussi que quand on est dans un service qui est un service à distance, on n'a pas du tout la même façon déjà de répondre à la question. Vu qu'on n'a pas la personne en face de soi, il faut essayer d'analyser la question au mieux. Il faut essayer d'avoir ensuite une réflexion par rapport aux outils qu'on va proposer en fonction du statut, en fonction du niveau de l'étudiant. Après, il faut aussi réfléchir à la façon dont on va rédiger la réponse, hein. Mais après, voilà, l'avantage quand même dans un service à distance, hein, c'est comme le nom l'indique, c'est à distance. On a 48 heures donc, pour répondre et qu'on peut se permettre le temps de la réflexion pour justement différer sa réponse, ce qui n'est effectivement pas évident en formation où on est obligé donc de répondre dans l'instant à la question de l'étudiant. Donc voilà ce que je vous évoquais il y a quelques instants, hein, c'est qu'il faut vraiment partir sur une idée que l'échelle est différente entre les différents services. Hein. On n'a pas la même quantité de questions à traiter qu'on a de formations à dispenser, quelles que soient les disciplines. Hein. Et c'est lié au fait que vous voyez que la formation elle a débuté en 2001 de façon structurée, mais elle existait avant de façon un peu plus dispersée. Hein. Donc la formation a un historique beaucoup plus important au niveau de l'université et au niveau du SCD, ce qui explique les différences notables de chiffres. Hein. Et les statistiques sont du coup pas du tout les mêmes. Alors après, on peut essayer de faire plein de graphiques, plein de schémas pour essayer de voir les différences qui peuvent exister, les liens qui peuvent apparaître entre différents services. Donc là, sur ce graphique, on voit déjà bien la différence d'échelle. Hein. On n'est pas du tout, en matière de volumétrie, au même niveau. Après, voilà, on peut essayer de dire qu'à partir de là, ça suit à peu près les mêmes variations. Ou alors on peut dire qu'au contraire, là, on voit que ça stagne alors que les formations réaugmentent. Hein. Après, tout est question d'interprétation. Après, ce qui m'a paru aussi intéressant de mettre en évidence, c'est la relation entre la discipline d'origine de l'étudiant qui pose sa question sur un service en ligne et les formations dans la même discipline. Alors, je m'explique. Et après, on peut aussi faire des questions sur la thématique de la discipline. Mais un étudiant de sociaux, il peut aussi bien poser une question de pratique qu'une question d'ordre bibliographique. Parce qu'il faut savoir qu'au final, le service de questions-réponses traite quand même énormément de questions, à peu près la moitié, hein, de questions d'ordre pratique, qui sont des questions sur les règles de prêt, les horaires d'ouverture, les accès distants, etc. Mais là, ce qui m'a paru intéressant de mettre en évidence, hein, c'est la discipline d'origine de l'étudiant et les formations. Ça met un petit peu en lien la connexion qui peut exister entre la communication qu'on peut faire sur le service bibliothécaire en ligne. Donc cette communication, elle se fait par le biais de petits signets qu'on distribue aux banques d'accueil, mais elle se fait aussi par le biais des formations qu'on dispense. Quand on fait des formations au master d'Infocom, par exemple, on leur dit à l'issue de la formation, si vous avez des questions subsidiaires, vous pouvez les adresser au service correspondant, qui est à même de répondre à un certain nombre de questions dans les 48 heures. Donc, même s'ils ne l'utilisent pas, ils ont l'information et ils connaissent l'existence de ce service. Donc là, vous voyez, hein, j'évoquais en tout début de communication donc, la continuité qui peut exister entre les collections, les formations et le nombre de questions. C'est vrai que, par exemple, pour la psycho, les sciences de l'éduc, c'est vrai qu'on peut... c'est relativement visible, hein, ce genre de corrélation qui peut exister, puisque à Lyon 2, on est donc pôle de référence en psycho. On a aussi beaucoup de collections en sciences de l'éducation et c'est là qu'on a le plus de formations et on va dire le nombre de questions le plus important. Alors après, il y a des petites exceptions. En musicologie, on est pôle de référence, on n'a quasiment pas de questions et on n'a pas de formation non plus. Mais bon. Donc, les similitudes hein, que j'ai essayé de mettre un petit peu en exergue entre les différents services, alors après, il y en a peut-être plein d'autres. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vu dans un premier temps, c'est déjà la constitution de l'équipe hein, dont on a parlé au départ, qui se basait au départ donc, sur les compétences des formateurs. Donc, les formateurs ont été, on va dire, sélectionnés et puis ils étaient également volontaires. Hein. C'était un point relativement important parce que c'était donc des personnes qui avaient donc des compétences pour interroger les bases de données, donc répondre aux questions d'ordre bibliographique. Mais c'est vrai que ce qui est valable à distance, hein, c'est aussi valable en présentiel. Donc, dans la mesure normalement où tout le monde fait du service public hein, et fait partie du service de renseignement bibliographique en présentiel, on peut normalement aussi être à même de renseigner par le biais du service de réponse à distance. Et après, donc, dans les deux cas, hein, on a de toute façon une démarche pédagogique et on essaye donc dans les deux formules, hein, que ce soit la formation ou le service de réponse à distance, d'essayer de viser un petit peu à l'autonomie des étudiants. Donc, c'est vrai que sur cet aspect, il n'existe pas énormément d'écrits et de bibliographies, mais dans ce que j'ai pu trouver, j'avais déjà regardé un petit peu dans le mémoire de DCB de Claire Nguyen en 2004, ce lien qu'elle faisait entre le service de référence virtuelle de l'Université de Montréal et l'autonomie des étudiants. Donc elle pointait déjà un petit peu cet aspect-là. Et je retrouvais donc la même chose dans un mémoire d'études de Poitiers, qui a été fait par Hélène Sada beaucoup plus récemment en 2010, et qui pointe aussi le lien qui est fait entre les services de référence virtuelle et l'autonomie des étudiants, et donc la formation. Donc toujours pour continuer sur les similitudes entre les deux services, hein, donc toujours pareil, le public, donc aussi bien au niveau des formations qu'au niveau du service de renseignement à distance, hein, c'est les étudiants de master qui sont les plus grands utilisateurs du service, hein, même si je vous ai dit quand même qu'une fois qu'on cumule toutes les années de licence, on arrive quand même à peu près aux mêmes effectifs, hein, mais a priori, c'est les étudiants pour lesquels les besoins bibliographiques et la recherche documentaire, on va dire, est la plus forte. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu une cohérence avec le nombre de questions et le nombre de formations que l'on dispense. Après, donc, c'est ce qu'on vient de voir au niveau de la répartition des questions par discipline. Hein, sur l'histogramme précédent, on voyait bien la corrélation qui existait entre le nombre de formations et celui du nombre de questions. Donc, on arrive bientôt à la fin. Donc, la formation au service du renseignement en ligne, hein, donc, voilà, comme je vous l'ai dit un petit peu tout au cours de l'exposé, par la mise à disposition, donc déjà dans un premier temps, des compétences de ces formateurs. Et après, si on veut essayer de réfléchir de manière un petit peu plus prospective, hein, il faut savoir que donc au sein du SCD, il y a un certain nombre de personnes qui sont intéressées donc par la mise à disposition de tutoriels, à la réalisation de supports. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va peut-être voir le jour tout bientôt. Et on peut tout à fait essayer d'imaginer, intégrer tous ces tutoriels qu'on réalise et qu'on peut donc essayer de réutiliser par la suite et les intégrer donc dans les réponses qu'on fournit aux utilisateurs dans le service de questions-réponses à distance. Voilà, donc après la grande question, c'est au travers de toutes les statistiques et de tous les graphiques qu'on peut essayer de mettre en œuvre, hein, essayer de voir est-ce qu'il existe plutôt une rupture ou plutôt une continuité entre ces services. Donc a priori, à travers les chiffres qu'on vient de voir et les éléments que je viens de vous exposer, a priori, moi je pense plutôt qu'il existe une continuité ou alors, si on ne peut pas parler de continuité, au moins une complémentarité entre ces différents services. Hein. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui doive prévaloir sur l'autre ou qui prenne le pas sur l'autre. Hein. C'est vraiment deux choses qui sont tout à fait complémentaires. Et dans la mesure où nous, on avait une vocation plutôt pédagogique dans la mise en œuvre de notre service de questions-réponses à distance, voilà, c'est vrai que là, à ce moment-là, on peut plutôt peut-être parler de continuité et de complémentarité en matière d'objectifs. Et ce qu'on a déjà vu à travers donc, l'exposé précédent, donc, cette notion de compétence des formateurs hein, et des membres du service de réponse à distance. Donc voilà, moi, c'est ces deux choses essentielles que je vois à travers donc, la pratique que l'on a pour l'instant à Lyon 2 et le petit recul que l'on peut avoir. Mais après, peut-être qu'il existe d'autres choses hein, sur lesquelles on peut peut-être insister un petit peu et avoir un petit peu plus de pistes de réflexion. Donc voilà, je crois que je suis dans les temps. Alors, j'ai respecté le cahier des charges.